I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Aujourd'hui, on va parler de Twitter et d'Instagram qui se lancent dans le texte. On a aussi de la désinformation assez édifiante avec une enquête qui s'appelle Story Killers. On va aussi parler d'IA et de l'utilisation de l'IA comme outil plutôt que comme ennemi. C'est parti pour le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine. J'espère que ce plaisir est partagé par les auditeurs d'une part et par mes invités d'autre part. On va leur dire bonjour dans un instant, mais avant ça, je vous rappelle que je suis Patrick Béja, que nous sommes en février 2023 et que c'est l'épisode numéro 501 comme les jeans. Et ces rappels faits, je peux dire bonjour à mes co-animateurs. D'une part, Marion Doumain qui est là avec nous comme tous les mois. Bonjour Marion, comment ça va ?
Bah salut Patrick, ça va très bien. Moins de neige que toi par la fenêtre, mais ça va très bien. Grand ciel bleu, donc je ne me plains pas.
C'est ça, il ne faut pas s'en plaindre. Je montrais sur la chaîne Twitch en live le temps qu'il fait chez moi. C'est la neige qui n'arrête pas de tomber depuis 48 heures. Je peux vous dire qu'il a fallu la dégager en sortant pour amener les enfants à la crèche ce matin. On était en retard. J'espère que le truc qui déblaye, enfin le tracteur qui vient déblayer notre petit chemin de terre qui va jusqu'à la route va passer cette nuit. Sinon, on risque de pas pouvoir sortir demain. Petite anecdote, on sort, je rentre dans la voiture avec les enfants, on commence à rouler. Et là, je me rends compte qu'il y avait tellement de neige sur les arbres que les branches étaient descendues quasiment sur la route. Donc je dois sortir, je prends un petit bâton, je tape sur les branches et il y a la neige qui tombe. Et à chaque fois, tu sais, la branche remonte un petit peu, et puis un petit peu, et puis un petit peu. Donc j'ai dû faire ça sur tout le chemin pour pouvoir sortir. La vie à la campagne, dans la forêt.
Est-ce que tu n'auras pas mieux fait d'y aller à pied du coup pour taper sur les branches sans sortir de la voiture à chaque fois ? Est-ce que tu as une voiture avec un toit ouvrant pour pouvoir taper en conduisant ?
Mettre les enfants au boulot.
Je pensais que ça serait
recommandé. Ouais, non, mettre les enfants au boulot. Allez, tac, t'y vas. Bon, peut-être pour la prochaine fois. On a Stéphane qui est là aussi avec nous, Stéphane Le Boisselier. Bonjour, comment vas-tu ? Tu as les ados qui sont silencieux
bien.
Derrière, c'est bien.
Oui, il y a eu des bruits d'assiettes, mais j'avais coupé le micro. Voilà. Alors, bien, mais un peu en colère quand même, parce que ça fait plus d'une semaine que je prépare ma vanne pourrie sur l'épisode 501. Et tu me la piques.
Ah,
tu me
la piques
à la fin du 500 en disant on se retrouve pour le 501 comme les jeans. Ouhouhou, et là tu me la refais.
C'est
moi les blagues pourries normalement.
Toutes mes excuses à la fois à Stéphane et également à nos auditeurs et nos auditrices. Désolé.
Et là je me suis dit bon. On a le même humour avec Patrick, tout va bien.
C'est voilà. Peut-être pas pour
dire quelque chose.
Ravi d'être là.
Sauvez-moi.
Bon, oui, désolé, Marion.
Je remercie également les Patriotes qui nous ont rejoints, depuis la semaine dernière dans la formidable famille des Patriotes. Frédéric Pardoen, Antoine Defourte, Stig Nissen, Timothée, DJ Memo, Eric Stuck Logo, qui nous a rejoint sur le Discord d'ailleurs. Salut Stuck, il prend part aux discussions depuis une petite semaine, c'est fort sympathique. On a aussi Mathieu Grut et Basile Schaff qui m'a envoyé un gentil message. Merci à vous tous de soutenir cette émission et merci en particulier aux producteurs Stéphane Lioret et Lancelot Davizard qui ont le niveau producteur secret sur Patreon et qu'on remercie tous les mois. Merci à vous tous, c'est grâce à vous que cette émission existe. Bon, on a un gros programme, donc on va se lancer tout de suite avec les infos à retenir et le truc que vous attendiez tous, le jingle des infos à retenir. Il n'est pas trop fort, hein, ça va. On sent le plaisir ASMR-like de Stéphane. Twitter, alors c'est It's Twitter Time. Bon, on doit parler de Twitter. En même temps, là, pour le coup, il y a une vraie raison, enfin, deux vraies raisons et des trucs adjacents à Twitter. D'une part, différents indices concourent pour montrer que Elon Musk aurait bien traficoté l'algorithme de Twitter pour faire remonter ses tweets à lui plus que ceux des autres et beaucoup plus. Il y a eu une réunion de crise, visiblement, il y a une dizaine de jours chez Twitter parce que un tweet d'Elon Musk avait, enfin, un tweet de Joe Biden avait fait plus de vues que les tweets d'Elon Musk. Alors là, il a réuni ses 80 ingénieurs. Il leur dit « Qu'est-ce que c'est que ce scandale ?» Et donc, il y en a un qui a dit « Non, non, mais c'est peut-être parce que t'es moins populaire. T'es viré !» Et puis les autres se sont mis au boulot, forcément. Ils ont dit « Oui, oui, monsieur, évidemment, c'est tout à fait. Oui, chef, on va multiplier votre facteur algorithmique par 1000. » Et bon, forcément, ça s'est vu parce qu'il s'est retrouvé avec ses réponses partout dans les flux de tout le monde. Il a dit, lui, mais non, pas du tout, c'est totalement faux, c'est n'importe quoi. On a eu depuis des chiffres qui montrent que quand même, depuis ce moment-là, il y a un truc qui s'est passé. Et effectivement, les données, les tweets de Twitter, ça a été observé par un chercheur, semble effectivement quand même beaucoup plus présent et beaucoup plus affiché qu'avant ce moment-là. On a des courbes très très belles qui montrent ça, donc bon, bref. Ça, à la limite, c'est un détail. L'histoire qui nous occupe le plus, enfin c'est un détail, non, c'est quand même un truc important, on est vers la voie, je ne sais pas, c'est une sorte de parcours classique du révolutionnaire qui se transforme en dictateur, mais bon...
Mégalomaniaque, tu veux dire ?
Bah, non, mais c'est... Enfin, vraiment... Disons qu'on ne peut pas affirmer avec certitude que c'est ce qui s'est passé, mais il y a quand même des indices, et puis d'une manière générale, l'attitude du bonhomme est un petit peu... oui, c'est plus que mégalomaniaque, c'est en train de devenir...
Mais c'est intéressant, c'est un CEO de société privée qui veut être plus populaire que le président des États-Unis, quoi. Et il ne trouve pas ça normal.
Ouais.
Alors le président est plus populaire que moi, c'est pas normal. Okay,
ouais, voilà. T'es là, Coco, en fait.
En plus, c'est même pas qu'il est plus populaire que lui. Visiblement, le truc qu'il a énervé, c'est que un tweet de Biden, qui était un tweet à propos du Super Bowl, enfin le truc, avait fait beaucoup beaucoup de vues, alors que les siens sont plutôt sur la pente descendante. Enfin bon, on est. Moi,
ouais,
j'ai l'impression
Même si c'était plus qu'un tweet, je trouve ça plutôt rassurant que l'avis d'un président d'un pays compte plus que l'avis d'un mec qui dirige une plateforme de réseau social. Enfin, j'ai rien contre les CEO de plateformes de réseau social, mais certes, il envoie des fusées dans l'espace, mais bon, il n'est pas président, il n'a pas été élu, quoi.
J'espère que tu ne te retrouveras pas dans une salle de réunion avec lui un jour, parce que tu risquerais d'avoir le « viré, t'es viré !» tout de suite.
Alors, je pense que je vivrais très, très mal si j'étais dans la même pièce que lui.
C'est marrant, d'ailleurs, les comparaisons qu'on fait souvent entre l'attitude de Musk et l'attitude de Donald Trump, parce que la phrase clé du reality show de Donald Trump, c'était quand même « You're fired ». Et là, ça a l'air d'être son attitude dans ses réunions chez Twitter.
Bon, on y est là, ouais, on y est.
On a aussi un sujet qui, à vrai dire, un peu plus important encore, même si celui-là n'est pas pas banal, mais a quand même de l'importance, c'est la fin de la double authentification par SMS chez Twitter pour les comptes qui ne sont pas abonnés à Twitter Blue. Et ça a fait couler beaucoup d'encre virtuelle. Et je crois que si c'est quelque chose d'important, voire de dangereux, je pense quand même que c'est un petit peu... ça a été surinterprété par beaucoup, sans doute à cause des bêtises en continu qui se passent chez Twitter depuis le rachat, mais ce qui se passe exactement avec cette histoire. Alors, l'authentification double facteur, vous le savez, c'est un moyen de sécuriser un compte avec un facteur supplémentaire que le mot de passe. C'est-à-dire qu'on a le nom de compte, le mot de passe, et en plus de ça, un autre facteur d'authentification qui est généralement un mot de passe envoyé par SMS ou une application qui va vous donner un mot de passe temporaire qui n'est valable que pendant une minute ou deux. Ou alors, il y a des clés physiques qu'on peut mettre dans le port USB de son appareil pour vérifier en plus du mot de passe. Donc ça, c'est l'authentification double facteur. Le plus populaire, c'est évidemment le SMS parce qu'on n'a pas besoin d'installer une application, d'avoir un matériel en plus, etc. Et donc, quand vous connectez, vous connaissez tout ça. Système envoie un SMS au numéro que vous avez enseigné et ça permet de vérifier qu'au minimum, en plus du mot de passe, vous avez l'appareil qui est associé au numéro de téléphone. En l'occurrence, le SMS, ce n'est pas le moyen le plus sûr parce qu'il est, entre guillemets, facile de spoofer un numéro de téléphone ou de le faire répliquer par l'opérateur. Ce n'est pas Stéphane qui nous dira le contraire, hein, qui est chercheur en sécurité.
Non, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire LOL, en fait.
Ouais, le SMS. Disons que si on veut cibler quelqu'un pour contrecarrer cette double authentification, c'est possible. Mais il n'empêche, pour énormément de gens, c'est le moyen le plus simple et c'est beaucoup plus sécurisé avec ce moyen que sans double authentification du tout. Le truc, c'est que ça coûte de l'argent de faire envoyer des SMS et selon Elon Musk, alors je ne sais pas combien de crédit il faut accorder à cette affirmation, mais selon Elon Musk, il y a beaucoup de sociétés qui font des arnaques aux SMS envers Twitter et que du coup, ça leur coûte, au lieu de leur coûter quelques millions par an, ça leur coûte 60 millions par an parce qu'il y a plein de c'est difficile à vérifier visiblement, hein, je ne sais pas comment marche leur système, mais ça leur coûte 60 millions de dollars par an. Ok. Parenthèse, les revenus en 2022 de Twitter, c'était 5 milliards. Mais bon, bref, passons, 60 millions, c'est pas rien. Et donc, ils ont décidé de supprimer, dans un mois, l'accès à l'authentification par SMS à tous les comptes Twitter qui ne sont pas abonnés Twitter Blue. Pour les abonnés Twitter Blue, donc ça réduit énormément le nombre d'utilisateurs de double authentification par SMS. Pourquoi pas ? Moi, ça ne me dérange pas qu'ils le laissent pour une catégorie réduite. Hein. C'est cohérent avec ce qu'ils disent. Même s'il y a certains qui disent « Ah, oh, mais regarde, ils le laissent pour Twitter Blue, donc ce n'est pas une question de… » Bon, si, c'est une minorité, Twitter Blue. Et beaucoup de gens ont pensé, ou ont interprété peut-être volontairement, la chose comme Twitter désactive la double authentification pour tous les comptes, sauf ceux qui ont Twitter Blue. Ce n'est pas ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils désactivent si vous avez une authentification par SMS. Mais vous pouvez toujours le faire par application ou par clé physique que vous branchez dans votre port USB. Le plus simple étant par application, évidemment. Ça reste problématique parce que c'est arrivé avec très, très peu de communication. Il y a une pop-up que la plupart des gens vont fermer dans leur application Twitter et ça s'active dans un mois. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui vont simplement désactiver la double authentification pour ne pas être bloqués sur Twitter et qui ne vont pas ajouter une application ou ce genre de choses. Donc, je crois que ce n'est pas bien fait et c'est dangereux dans les faits, mais ce n'est pas non plus la fin du monde comme l'ont indiqué les gens qui criaient sur Twitter. C'est pas comme ça qu'il faut le faire. Stéphane, j'imagine que c'est ton avis de chercheur en sécurité, enfin de spécialiste de la sécurité. T'es pas hyper tendre avec cette méthode, j'imagine, mais je te laisse nous le dire.
Bah, on va dire que pour moi, c'est la dernière des méthodes à utiliser, celle quand t'as pas le choix. Mais comme tu l'as très bien dit, c'est tellement facile aujourd'hui de cloner une carte SIM et de se faire passer pour quelqu'un et de récupérer les messages qu'il peut recevoir, etc. Et c'est quelque chose que nous, dans mon métier, on rencontre, pas tous les jours, mais pas loin. C'est pour moi, effectivement, la moins bonne des solutions. Même si, comme tu l'as très bien dit aussi, ça reste quand même une authentification double facteur. C'est-à-dire que c'est déjà toujours mieux que d'avoir un mot de passe unique. Mais si j'ai un conseil à donner, effectivement, à nos auditeurs, c'est plutôt d'utiliser soit une app d'authentification. Google en a une, Microsoft en a une, il y en a des tonnes. Voilà, ou une clé physique. Alors c'est un petit investissement, mais c'est une quarantaine d'euros. Vous avez des clés FIDO qui marchent à la fois en USB et à la fois en NFC. Il faut savoir que maintenant ça marche avec certaines applications sur l'iPhone aussi. Et donc ça marche plutôt bien, mais ça réclame un petit investissement. Et effectivement, il faut avoir la clé sur soi, etc. C'est un petit peu plus contraignant. Donc ça, c'est quelque chose que je vais plutôt vous conseiller pour sécuriser, par exemple, un coffre-fort de mots de passe.
Ouais.
Voilà, par exemple. Mais après, l'authentification par app, c'est vraiment très, très bien. Même si, là encore, si on cherche un petit peu, il y a toujours des moyens ça va tellement loin qu'il faut vraiment le vouloir. Et on va plutôt essayer de hacker quelqu'un qui a un système de validation par SMS. Ça sera de toute façon plus facile. Voilà. Mais
Marion,
comme tu l'as dit, hein, c'est plutôt la com qui n'était pas bonne, quoi.
C'est à ça que je voulais en venir. Je comprends que les gens, hashtag les gens, soient pas contents. C'est quand même mal géré, son truc, la manière dont il le fait. Ok, on va, phase out l'authentification par SMS, la double authentification par SMS. Ok, pourquoi pas. C'est effectivement pas la méthode recommandée par les spécialistes en sécurité. Enfin là, quand même, il y a meilleur moyen de le faire, non?
Oui, c'est assez rigolo parce qu'au final, la pire méthode de double authentification devient payante et les meilleures restent gratuites. Donc, c'est un peu ce que tu as dit. Il faut arrêter de s'énerver pour pas grand-chose, quoi. Enfin, alors, ce qui est pénible, et c'est là le risque que tu as pointé, c'est que malheureusement, déjà d'avoir passé l'étape de la double authentification, même si c'est la moins bonne avec SMS, c'est déjà mieux que rien, comme Stéphane et toi l'avaient dit. Et le problème, c'est que demander aux gens qui avaient déjà défini ça de faire autre chose... Ben, ils sont là, non mais t'es gentil, mais je passe pas ma vie sur Twitter à définir mes critères de sécurité et ma double authentification. Enfin, je l'ai fait une fois, arrête de m'embêter. Et là, en fait, je suis d'accord avec les utilisateurs. Je suis là, il faut pas non plus abuser, quoi. Mais oui, il y a vraiment un problème de communication. Est-ce que c'est étonnant? Absolument non. C'est un désastre de communication de Twitter, de toute façon, depuis plusieurs mois. Donc, j'ai envie de dire, ils restent cohérents dans leur niveau de communication. Ouais. Mais oui, de toute façon, moi, j'étais... à un moment donné, j'arrivais même pas à établir la double authentification parce que j'avais créé mon compte, c'était trop vieux, bref, c'était bloqué avec la double authentification et personne au support client était capable de m'aider. Donc, un jour, j'ai pu l'activer par miracle. Je sais pas pourquoi je me suis obstinée.
En désactivant, ça t'envoyait un message les premiers temps comme quoi c'était il y avait un souci sur l'application et tu pouvais pas le faire. Enfin.
Ouais, donc voilà, bref, je trouve que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Ça accroît le danger pour les utilisateurs de Twitter, parce qu'il ne faut pas se leurrer, la majeure partie qui avait déjà activé le SMS, il y a peu de chances quand même qu'ils s'amusent ou qu'ils soient même au courant qu'il faudrait qu'ils changent de méthode d'authentification, vu qu'ils ne sont pas très très bien guidés sur le sujet à l'heure actuelle. C'est dommage, c'est encore une fois Twitter qui ne gère pas très bien le sujet.
Je crois que s'ils avaient
le problème, ça va peut-être être la migration en fait entre les gens qui utilisent cette méthode aujourd'hui et le recours à une méthode via une app, etc. Parce que souvent, tu sais, on te donne des clés pour récupérer ta clé de sécurité, etc., etc. Et s'ils coupent d'un coup et que la personne n'a pas fait le lien vers la migration, vers l'authentification par une app, elle peut potentiellement avoir des problèmes. Donc, il gère ça intelligemment, quoi.
Normalement, en tant qu'ingénieur et product designer, le projet de migration sur des sujets de sécurité, c'est un vrai projet, en fait. Sous le coude. Moi, j'ai travaillé sur un sujet, enfin, pas exactement ça, mais sur du chiffrement de données et sur une migration pour mieux protéger les données des utilisateurs. Ça prend... Bon, ça se fait pas du jour au lendemain pour faire la migration et il faut prévoir tous les cas. Certains peuvent être manuels si ça impacte pas énormément d'utilisateurs et que tout le monde va pas venir te contacter au même moment, mais il faut toujours prévoir une manière pour les gens de retrouver leur accès au compte et à leurs données. Et comment tu fais ça tout en respectant la sécurité des données. Donc voilà, c'est réfléchir à l'expérience utilisateur.
C'est ça. S'ils avaient dit,
quand on n'a pas Elon Musk comme patron
et qu'on n'a pas viré moitié de l'équipe, quoi.
Toi, t'es viré. S'ils avaient fait ça, genre dans 3 mois ou même dans 2 mois, on va désactiver le truc. Voilà le chemin pour changer votre méthode d'authentification. Faites-le maintenant, etc. Moi, je me demande s'ils vont pas faire marche arrière, genre dans 2 semaines, et dire bon, finalement, on laisse un mois de plus ou on fait les choses un peu différemment. Et entre temps, il y a des gens qui seront passés à l'authentification par app, mais la double authentification par app, mais on verra. Une autre chose qui n'est pas directement liée à Twitter, mais qui est une copie de ce que fait Twitter, c'est Meta, donc Facebook, Instagram, tout ça, qui annonce les Meta Verified Subscription Service, c'est-à-dire les services de vérification payants avec un badge bleu, tout comme Twitter. Ça coûtera une douzaine de dollars par mois et ça sera disponible sur Facebook et sur Instagram. En gros, c'est la vérification du compte payante, exactement comme le fait Facebook, exactement comme le fait Twitter. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah oui, mais du coup, tu vois, c'est exactement la même chose, ça valide l'idée de Twitter. » Et d'une certaine manière, oui, c'est pour certains aspects une validation de ce que fait Elon Musk avec Twitter Blue, mais il y a quand même des différences. Et plusieurs différences que j'ai notées, c'est que d'une part, Meta a un modèle économique basé sur la pub qui reste solide. Les annonceurs ne sont pas en train de fuir la plateforme et pour eux, c'est un revenu supplémentaire, cette chose-là, la vérification. C'est pas, comme l'a professé Elon Musk, l'idée de devenir une partie majeure, en tout cas à ce stade, de leurs revenus. Donc, de ce point de vue, c'est important. Il y a aussi le fait qu'il y a d'autres choses qui ont de la valeur dans cet abonnement chez Meta. Par exemple, l'accès à un service client avec une vraie personne directement quand on est abonné. Donc ça, c'est important, surtout pour des gens qui ont leur business sur Instagram, par exemple, ou qui l'utilisent de manière professionnelle. Bah, ça a une vraie valeur, cet abonnement. Du coup, oui, on est un utilisateur professionnel, on a accès à une vraie personne quand on a un problème. Et puis, il y a aussi le fait, alors ce n'est pas tout à fait complètement vrai sur Facebook, mais d'une manière générale, Twitter est beaucoup plus un média de communication publique. Évidemment qu'il y a des gens qui communiquent publiquement sur Facebook et sur Instagram et à des plus grandes audiences, mais ce n'est pas autant un média où on va avoir des discussions animées sur des sujets de politique. Encore une fois, sur Facebook, il y a beaucoup de groupes où c'est le cas, mais c'est plus one to many, et on y reviendra tout à l'heure. Ce n'est pas autant un espace de discussion. Donc, la vérification sur Twitter, et même historiquement, avait une valeur qui était différente de ce qu'on peut avoir sur Facebook. C'était une valeur qui, avec tous ses défauts, était censée te donner une indication sur la qualité du compte ou la valeur journalistique ou ce genre de choses du compte en question. Donc là, sur Facebook, ce n'est pas tout à fait la même situation. Donc oui, est-ce que c'est Meta qui copie Musk ? Oui. Est-ce que ça a tout à fait les mêmes conséquences ? Je dirais non, mais c'est quand même quelque chose d'important, c'est sûr. Donc voilà, ça c'était une annonce qui est arrivée par Zuckerberg il y a quelques jours. Et encore plus intéressant que ça, je trouve, moi, c'est l'arrivée des channels Instagram. Juste pour finir sur Twitter, il y a une petite mise à jour, je ne sais pas si vous l'avez vu tous les deux, dans iOS 16.4, un tout petit truc, c'est que dans les e-message, les iMessage, va y avoir, si on met un lien Mastodon, il va y avoir une preview du lien en question qui marchera pour Mastodon, en plus de toutes les mises à jour différentes qui sont déjà dans les nouveaux emojis, tout ça. Mais il y aura, du coup, une preview des updates Mastodon. Je trouve ça intéressant parce que c'est un petit moyen pour Apple de favoriser aussi Mastodon. Je me demande si ce n'est pas assez intentionnel de la part d'Apple. Enfin, c'est forcément intentionnel de la part d'Apple de faire quelque chose comme ça.
Ah, mais écoute, donc, je suis sur la 16.4, je ferai un test avec ton compte et je te dirai.
Hein. Très bien, très bien.
Voilà. Je n'utilise pas assez Mastodon, mais bon, pour aller follow notre Patrick.
Moi, je suis actif sur Mastodon.
Il n'y a pas ce genre de preview avec les autres ?
Si, mais c'est juste qu'ils rajoutent Mastodon, tu vois. Donc, quelqu'un a pris le temps d'aller ajouter l'intégration de la preview Mastodon. Okay. Je trouve que c'est pas anodin, quoi. Mais le truc encore plus intéressant que je voulais mentionner, puisqu'on parle de réseaux sociaux et de communication par texte, c'est l'arrivée prochaine des broadcast channels, ou des channels, des chaînes de diffusion sur Instagram. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un petit peu l'intégration sur Instagram des groupes de discussion type WhatsApp, Telegram, etc. Sauf que c'est vraiment one to many, donc un vers beaucoup. Donc, la personne qui a accès à ça, c'est pas encore... Ils commencent avec des gros comptes et puis ils vont diffuser ça petit à petit. Ils testent les choses hein, avec un calendrier de déploiement chez Instagram. Et donc, on peut poster des messages comme dans une discussion classique, sauf que les gens qui les lisent ne peuvent pas répondre. Donc, si on a 100 000 followers, on ne va pas avoir 100 000 réponses dans le truc. Mais ils peuvent réagir, répondre à des sondages, des choses comme ça. Mais donc, c'est vraiment l'idée d'avoir de la communication par texte en plus des images. Je trouve ça vraiment intéressant. Et je trouve... Alors, moi, j'aime beaucoup Twitter, donc peut-être que ça me parle particulièrement. Mais je trouve ça hyper intéressant comme ajout à Instagram, qui est avant tout un média visuel, hein, que ce soit en photo ou beaucoup plus en vidéo aujourd'hui avec les Reels, etc. Mais là, il y aura en plus le texte. C'est un truc que vous pourriez utiliser, dont vous voyez une utilité, ou moi, je délire un petit peu, peut-être, Stéphane, on vient vers toi. Tu vas venir suivre, en plus de me suivre sur Mastodon, sur Instagram, pour avoir toutes mes updates Instagram.
Alors, Insta, je participe peu, mais je suis quand même un gros consommateur.
Ah, ok, très bien.
Je suis pas mal de monde sur Insta et aussi surtout avec mon autre compte Révolution 3D. Mm-hmm. Par contre, ouais, je suis pas assez utilisateur et je partage pas assez de contenu pour aller utiliser les channels, etc., etc. Après, effectivement, ça peut être pas mal, ça a une vraie valeur ajoutée, donc pourquoi pas à tester en fait, hein, à tester. Ouais. Vraiment, je pense qu'il va falloir un peu de recul pour voir ce que ça donne et s'il y a une réelle utilité. Mais pour une fois que c'est une fonctionnalité qui est pas réellement copiée sur quelqu'un, j'ai presque envie de tirer mon chapeau, quoi.
Bon, c'est un peu copié sur WhatsApp ou ce genre de truc, peut-être.
Un peu, ouais.
Mais,
oui.
Mais je trouve ça pas mal parce que tu auras l'impression un petit peu de recevoir un message privé de ton idole. Tu vois, par exemple, tous les auditeurs et les auditrices qui vont me suivre sur Instagram vont avoir des « Salut, comment ça va ?» Tu vois, des petits messages comme ça. Non, mais rien.
Moi, je me vois bien l'utiliser, ouais. Je suis des artistes que j'aime beaucoup, des artistes de musique ou des créateurs, etc. Moi, je serais carrément pour m'abonner, hein.
Ouais. Ouais, je pense que ça peut fonctionner. Et puis, effectivement, je sais pas, c'est comme des SMS, quoi. Enfin, des échanges en direct.
Oui,
parce
oui.
que, bon, tu peux pas répondre, mais...
On va falloir libérer un peu de temps sur TikTok pour le passer sur les channels, quoi, du coup.
Ouais, et puis il y a déjà cette utilisation, j'ai l'impression, c'est juste un peu détourné. Par exemple, moi, je suis le groupe Glass Animals, qui est un groupe de pop-rock anglais. Et en fait, ils écrivent des petits articles de blog, enfin, les différents membres du groupe, et ils envoient une newsletter. Et en fait, généralement, ils font une capture de la newsletter qu'ils envoient, qu'ils mettent en post Instagram.
C'est vrai.
En story, ouais.
C'est vrai.
Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a déjà cet usage, c'est juste qu'ils détournent les fonctionnalités actuelles d'Instagram pour pouvoir vraiment le faire. Donc là, je trouve ça logique de développer un petit peu cet usage pour permettre, voilà, entre les créateurs et leur communauté, d'avoir des relations encore plus proches, quoi.
Je pense que ça peut donner quelque chose, effectivement. Ça sera déployé dans les semaines et les mois à venir. On verra ce que ça donne. Deuxième gros sujet que je voulais couvrir, c'est l'enquête... Alors, c'est incroyable, le marketing du journalisme, la manière dont ils dramatisent la chose, et je ne dis pas ça du tout de manière péjorative, même au contraire, c'est des outils de communication. Il y a une enquête qui s'appelle Story Killers, qui a été effectuée par un ensemble d'une trentaine de rédactions dans le monde. C'est des gens très sérieux, hein. Il y a tout un tas de rédactions très sérieuses, la BBC, Le Monde, etc. Et ils l'ont brandé Story Killers, et c'est un ensemble... d'enquête sur différents organismes qui aident à la désinformation dans le monde. Alors, la chose la plus visible en France, je crois que c'est l'affaire Rachid Embarki, oui, c'est ça, qui est un journaliste à BFM TV et qui a fait passer des sujets de désinformation à BFM TV, qui ont été en fait envoyés par des organismes plus que douteux. Bon, vous avez sans doute entendu parler de cette partie de l'affaire, et évidemment, elle est grave, elle a été traitée avec sérieux, je crois, mais ce n'est pas cette partie qui m'intéresse le plus. Moi, la partie qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'il y a derrière, c'est d'autres éléments de l'enquête Story Killers qui font référence à... Alors, je vous en ai choisi deux spécifiquement. C'est d'une part un groupe qui s'appelle Team Jorge, j'imagine que ça se lit comme ça, enfin ça se prononce comme ça, et d'autre part une société qui s'appelle Eliminalia. Alors Team Jorge, c'est un groupe géré par un ancien du Mossad, un agent israélien, qui est une société, hein, tout à fait, entre guillemets, une société normale, qui gère des réseaux de désinformation. Et je crois qu'on imagine tous, en particulier des acteurs étatiques, qui ont des réseaux de désinformation et les ferment à trolls, etc. Là, ce qu'on trouve, et c'est encore une fois une enquête qui a été menée dans l'anonymat, ils sont rentrés dans les bureaux, ils ont eu des interviews avec les responsables, etc. C'est très sérieux. Il y a un outil notamment qui s'appelle AIMS, qui est géré par cette société, qui permet de gérer des campagnes de désinformation dans le monde entier. Et il donne quelques exemples. Et ce qui est frappant, c'est que ça va beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait jusqu'ici. C'est-à-dire qu'il y a des milliers et des milliers de comptes. Ils indiquent dans l'enquête qu'ils peuvent créer entre 3000 et 5000 faux profils par semaine sur les réseaux sociaux. Et quand on dit faux profil, ce n'est pas un compte Twitter avec une image et une description. C'est des profils qui ont des comptes sur différents réseaux sociaux. On nous montre par exemple Twitter, Instagram, Facebook, etc., qui se postent et commentent entre eux sur les différents réseaux sociaux, donc qui sont vraiment difficiles à retrouver. Alors évidemment, ils ont des avatars tirés au hasard, piqués sur Internet, hein, on s'en doute, mais ce genre de choses. Et surtout, ça peut être coordonné pour des opérations de désinformation extrêmement efficaces. On a un exemple qui est donné, c'est l'événement Twitter de la mort d'Emmanuel Lemieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, c'était, je ne sais plus, en été, je crois. On avait vu à un moment un émeut qui est une sorte de... Enfin, c'est un gros, ça ressemble à un cerf, qui a été en trending topic de Twitter dans certains pays parce qu'il était censé être mort. Et c'est un animal qui est populaire, sur, qui a son compte, etc., qui est géré par sa propriétaire, évidemment.
Et en train de me dire que ce n'est pas Emmanuel qui gère son propre compte ?
Ce n'est pas lui-même qui gère son propre compte. Et donc, ils ont utilisé cet outil AIMS. Oui, non, mais l'information avant tout sur le rendez-vous tech, Marion. Tu vois, nous sommes dans l'exactitude. ils ont utilisé cet outil AIMS pour viraliser une annonce du décès d'Emmanuel, ce qui n'était pas du tout vrai. Et le hashtag RIP Emmanuel, en quelques jours ou quelques heures, s'est retrouvé en tendance dans différents pays, en l'occurrence en Slovaquie, mais donc il a vraiment eu une certaine popularité, à tel point que la propriétaire du compte, qui est quand même qui a un compte qui est suivi par 800 000 personnes, a dû aller dire que c'était pas du tout le cas et que Emmanuel n'était pas mort, et donc a dû s'exprimer publiquement sur le sujet, et elle savait pas d'où ça venait. Et on a la réponse maintenant avec cette histoire. Il y a d'autres exemples qui sont donnés qui sont beaucoup plus préoccupants, comme par exemple le sabotage de scrutin. Ils ont notamment saboté le premier référendum sur l'indépendance de la Catalogne, qui était organisé en 2014. Et ils disent que ils peuvent. L'objectif pour eux, il y avait un scrutin dans un pays africain qui a été reporté aussi. Ils disent que l'objectif, c'est de créer une atmosphère. Je vous lis un extrait de l'article. C'est de créer une atmosphère sur le terrain, comme à l'international, qui permet de faire apparaître le report de l'élection comme étant la meilleure solution. Et donc, c'est vraiment. Alors. C'est pas quelque chose dont on imaginait que ça n'existait pas, mais l'ampleur et la puissance des outils est vraiment édifiante. Donc, je vous recommande d'aller lire cet article. Il sera dans la newsletter, d'ailleurs. Et c'est intéressant à noter aussi qu'avec l'intelligence artificielle, ça risque d'encore faciliter ce genre de travail. L'autre élément qui est intéressant, et je ne sais pas s'il y a beaucoup à commenter là-dessus, mais je vous les mentionne quand même, sur ces deux-là. C'est donc Eliminalia qui est une société qui gère la réputation de ses clients et qui promet d'effacer le passé des gens qui estiment que leur passé ne devrait pas être visible sur Internet. Alors, ça fait évidemment penser au droit à l'oubli, qui est un outil légal, un concept légal qui a été mis en place en France et en Europe, où on peut demander à Google, par exemple, de faire supprimer les liens vers des histoires qui sont dommageables si elles sont trop anciennes, etc. Enfin, on ne va pas reparler de ce truc spécifiquement, mais évidemment, une société comme celle-là, qui a d'ailleurs disparu dans la nature après l'enquête, le business, c'est de faire du blanchiment de passé pour des organisations qui ont besoin de faire changer leur image publique, en fait. Et là où des gens sont accusés de certaines choses, à raison, souvent, eh bien, ils vont engager cette société qui, par deux outils principaux, le Digital Millennium Copyright Act, le DMCA, donc vont demander le retrait d'articles critiques pour des raisons fausses, hein. Par exemple, ils vont aller publier un article correspondant à un article critique de leur client qui en reprend de grands extraits, et ils vont l'antidater et dire c'est du copyright. Donc ils vont contacter par exemple les hébergeurs et dire c'est du copyright, veuillez retirer l'accès à cette page, ou alors directement l'éditeur du site, retirer l'accès à cette page ou supprimer la page. Et la plupart des gens qui n'ont pas d'outils légaux et de moyens légaux importants vont devoir s'exécuter. L'autre outil qu'ils utilisent, c'est le RGPD, et ils vont demander, pour des raisons évidemment suspectes, le retrait pour cause de RGPD. Ils vont donner des références, etc. Et du coup, le résultat, c'est que pour leurs clients, sujets critiques de leurs clients vont disparaître. Et on parle, en gros, le travail légitime représente une fraction infime de ce qu'ils font. On parle beaucoup de criminels qui veulent faire disparaître de, je schématise, hein, mais qui veulent faire disparaître de l'Internet leur passé ou leur présent criminel. Et ça marche. Et ça marche. Donc, le sujet est hyper intéressant aussi. Je vous le mettrai dans la newsletter également. Mais c'est à la fois fascinant et effrayant.
Et terrifiant.
Et terrifiant.
Parce qu'il y a quand même, Tammy, il se vante, tu vois. C'est-à-dire que, alors moi j'ai l'habitude dans la sécurité, si tu veux, d'avoir des gens qui vendent des plateformes sur le Darknet qui permettent de souscrire à un service pour pouvoir aller pirater une entreprise et disposer des outils, par exemple, hein, tu vois. Mais là, mais c'est sur le Darknet, donc tu vois, c'est un petit peu, c'est underground, tu vois. Hein, mais là, non, on a des gens qui se vantent carrément de pouvoir créer des faux comptes, etc., etc. Et moi, des fois, je m'amuse... à aller voir les faux profils sur... alors, il y en a beaucoup sur Insta et sur Twitter, il y en a de plus en plus aussi, bizarrement, depuis quelques mois. Et avant, les faux comptes sur Insta, tu les repérais en 2 secondes. Mmh. C'était des comptes où il y avait 2 photos et les personnes suivaient beaucoup plus de gens tu vois, qu'elles n'avaient de followers. Enfin, il y avait un espèce de décalage absolument énorme, genre 3 followers et 3000 suivis. Mmh. Et tu les repérais assez facilement. Et maintenant, avec ce genre d'entreprise, les faux comptes, si tu regardes bien, il y a du contenu, ouais, souvent depuis presque 1 an, voire 2 ans, à des dates différentes, des trucs qui paraissent légitimes. Et on voit qu'il y a vraiment des sociétés qui se sont spécialisées là-dedans. Et ouais, clairement, ça fait peur.
Mais c'est ça qui est assez impressionnant dans l'enquête, justement. C'est la richesse des faux profils quand ils montrent qu'ils créent plusieurs comptes sur différentes plateformes pour enrichir le profil et l'empreinte numérique d'un faux profil pour lui donner plus de crédibilité. Genre, il est inscrit à une chaîne de hamburgers parce qu'il aime les hamburgers, etc., etc. C'est le niveau de sophistication est en fait, ça ressemble un peu à Whack-a-Mole, c'est-à-dire les réseaux sociaux et les plateformes vont faire tout pour limiter et identifier ces espèces de faux comptes. Et donc, du coup, les faux comptes se perfectionnent pour pouvoir passer ces règles et ces détections, quoi.
Je crois qu'il est tentant de se dire « Ah bah oui, bah, c'est des faux comptes, on savait. Mais » Mais ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. C'est pas juste, hein, c'est des trolls, des fermatrolls, on savait que ça arrivait. Là, moi, comme vous le disiez tous les deux, j'arrivais plus ou moins à savoir qu'est-ce qui était un faux compte ou pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et la
c'est
manière
ça, c'est
dont
plus,
ils sont...
plus possible.
Ouais. Ils sont créés à la... Enfin, j'imagine que là aussi... Et ce n'est pas juste ces sociétés-là, hein, maintenant, qui sont révélées au grand jour, mais il y en a plein qui font des choses comme ça, enfin, plusieurs en tout cas. Et ce qui est frappant, c'est l'interaction entre les différents réseaux, le fait qu'ils aient des comptes sur plusieurs réseaux, etc. Donc... Bon, maintenant...
J'ai trouvé un moyen assez simple de mettre un terme aux conversations avec les faux comptes. Ça marche assez bien, je vous donne le tips, hein, au cas où. C'est que, en général, il y a des conversations qui se lancent, machin et tout, et au début, je fais exprès de répondre. Donc, je réponds, je dis « Ouais, ça va, merci, j'habite en France, et toi, machin et tout. » Et après, je dis « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Donc, elle ou il me répond ce qu'il fait dans la vie. Et en général, quand je soupçonne que c'est un faux compte, et je veux voir si ça va plus loin ou pas... il me dit « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui dis « Bah moi, je suis expert en cybersécurité. » En général, le faux compte, c'est silence radio derrière. Voilà. Là, j'ai plus de nouvelles. Et il y a eu une fois où j'étais persuadé que c'était un faux compte. Et la personne me répond « Bah ouais, et alors bah ok, cool, super. Ouais. » Bah, voilà. Et là, c'était pas un faux compte. Mais en général, quand c'est un faux compte, c'est après, voilà, c'est silence radio. Voilà, je vous donne le tip.
Donc, la prochaine étape d'amélioration des faux comptes, c'est quand le faux compte pourra répondre « Ah, mais c'est super impressionnant, ouais, Stéphane, dis-moi en plus
!» C'est ça.
Bah, écoutez, enfin, tout ça, évidemment, c'est intéressant, mais le plus important, c'est la manière dont il manipule effectivement... En tout cas, bon... Il se vante de pouvoir manipuler les élections. Hein. Après, peut-être que c'est le bravado des organisateurs de la boîte. Mais c'est ça qui est le plus impressionnant. Et c'est dans tous les pays, dans toutes les langues. Enfin bon, bref. Et voilà donc pour les 2 gros sujets que je voulais évoquer aujourd'hui. On a encore pas mal d'actualités qui arrivent, mais j'aimerais, avant de se lancer dans It's AI Time, bon, c'est pas aussi cool que d'habitude, mais quand même, je voudrais quand même remercier ceux qui soutiennent le Patreon et surtout vous inviter à peut-être vous aussi faire partie de cette catégorie de personnes exceptionnelles. Vous savez à quoi on reconnaît une vraie personne d'une IA ? Ben, une vraie personne, c'est une personne qui soutient le Rendez-vous Tech. Voilà, c'est ça, qui soutient les émissions des créateurs qu'ils apprécient. Si vous voulez savoir si c'est un troll ou une IA, vous pouvez poser cette question, en plus de « qu'est-ce que tu fais ?» et « non, moi, je fais de la recherche en sécurité », c'est « est-ce que tu soutiens le Rendez-vous Tech sur Patreon ?» Si la réponse est oui, là, vous dites « ah, vous êtes quelqu'un de bien, c'est forcément une vraie personne ». Donc, si vous voulez faire partie des gens bien, c'est très simple, patreon.com/rdvtech. Ça ne veut pas dire que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Mais au moins, c'est comme le badge bleu. Bah, vous êtes garanti d'être une personne bien pour une somme modique, encore moins si vous le souhaitez, que ce que vous payeriez sur Twitter ou Facebook ou Instagram. Quelques euros par mois, quelques 1 ou 2 ou 3 euros par épisode, c'est vous qui décidez. Et vous allez donc sur patreon.com/rdvtech, vous voyez le niveau qui vous convient, vous vous abonnez et en 2 secondes c'est fait, bim bam boum plaque, ça y est, c'est terminé et vous vous sentez mieux toute la journée, toute la semaine, tout le mois qui suit. Et en plus de ça, je vous remercie très chaleureusement de votre soutien. C'est une démarche qui, je pense, est tout à fait louable. Bon, je suis pas forcément objectif dans sur ce sujet, mais je pense que c'est une démarche louable et je vous en remercie.
Romy, je pose la question à tous les faux comptes.
Très bien, comme ça tu seras sûr. Et d'ailleurs, si vous êtes patriote, il y aura un petit after show à la fin de cet épisode, dans votre flux privé magique, magnifique, pour parler un petit peu et expliquer la section 230, cette pierre angulaire de l'Internet d'aujourd'hui qui est un petit peu remise en cause aux États-Unis et il y a d'ailleurs un procès qui va décider de son sort, qui s'ouvre aujourd'hui devant la Cour suprême américaine. Je vous explique ce que c'est, parce que la section 230, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit parfois. Et là, au moins, vous saurez, c'est vraiment un élément important du net, quoi. Et on ne sait pas combien de temps on va l'avoir. Bref, ça c'est en after show, après l'émission, pour les patriotes que j'aime.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
J'adore. Et on continue avec le reste de l'actualité. Avec It's AI Time. Alors là, c'est pas complètement la joie, mais quand même. Alors, on en parlait la semaine dernière, il y a eu des tonnes de critiques sur Bing, Bard et même ChatGPT depuis un moment. Les conséquences, alors il y a plein d'articles, hein, évidemment, je vous le résume, je vous la fais courte. Les conséquences essentielles, c'est que d'une part, Sundar Pichai, le PDG de Google, a dit aux gens, vous me corrigez tout ça, qu'est-ce que c'est que ce bordel sur Bard ? Il faut être neutre, on va réécrire l'IA pour qu'elle n'exprime pas d'émotion, etc., etc. Et Bing, qui a aussi été très critiqué parce que son IA finissait par devenir agressive, bizarre, au fur et à mesure des conversations. Et vraiment, il y a des exemples préoccupants. l'IA qui dit, on en parlait la semaine dernière, moi je suis une bonne IA, toi t'es pas un bon utilisateur, j'ai répondu, c'est vrai ce que j'ai dit, alors que c'est totalement faux, genre Avatar 2 est sorti en... est déjà sorti. Non, non, il n'est pas sorti, on est en 2022, il n'est pas encore sorti, mais si, si, je t'assure. Et c'est ce genre de réaction, genre, ah, ça m'énerve. Bref, l'IA dégénérait au bout d'un moment. La réponse de Bing, de Microsoft, c'est, eh ben, on va limiter les échanges à 5 questions-réponses, et après, on va vous imposer de recommencer une nouvelle conversation. C'est assez drôle parce que c'est vraiment mettre un bandage sur un truc, enfin un bandage un petit peu artificiel, mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est une petite partie des interactions. D'ailleurs, Microsoft l'a bien dit, oh, 70% des utilisateurs ont mis un pouce vers le haut avec leur échange avec Bing, etc., etc. Donc, au bout de 15 questions, ça devenait répétitif ou un petit peu bizarre. Donc, on limite à 5. OK, moi, je trouve que ce n'est pas plus mal pendant qu'ils sont en train d'améliorer la machinerie derrière. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs articles, dont certains de OpenAI directement, mais plusieurs articles de chercheurs, de spécialistes qui commencent à dire il faut... Enfin, il faut se poser la question de qui va décider comment on va, tout ça va marcher. Et certains vont dire, ah bah oui, il ne faut pas qu'on se pose juste la question maintenant. Mais comme je le disais avec Jérôme il y a une ou deux semaines, le truc, c'est qu'avant qu'on l'ait devant les yeux, bah, on ne va pas commencer à réfléchir aux conséquences directes de tous les projets de recherche, de tous les labos du monde pour légiférer l'utilisation potentielle. Ça, c'est juste pas possible. À un moment, quand ça commence à arriver dans la société, effectivement, il faut s'y intéresser. Et là, les responsables et les gens qui gèrent ce genre de projet le mettent en avant beaucoup plus tôt, je dirais, que ce qu'on a vu dans d'autres domaines de la tech où c'est venu après des années d'utilisation. Donc, il faut s'y intéresser. C'est en cours. Je trouve ça plutôt positif, mais... Enfin, plutôt positif. On ne laisse pas la chose autant dégénérer, je crois. D'un autre côté, Microsoft est, selon certaines sources et certaines rumeurs, déjà en train d'augmenter le prix des API de recherche par Bing, d'aller voir les annonceurs pour leur dire « Vous ne devez pas faire de la pub sur notre nouveau Bing etc., etc. » Donc la machine commence à s'activer. Moi, je trouve que c'est un petit peu le fonctionnement normal d'une nouvelle technologie aussi perturbante, qui perturbe l'industrie, hein, peut-être perturbante psychologiquement aussi, qui perturbe l'industrie, je trouve que c'est un fonctionnement normal, voire on ne laisse pas les choses dégénérer. Pas si vous, ça vous inquiète plus, j'aurai après un autre sujet un petit peu plus positif à vous soumettre, mais comment vous jugez l'évolution de ce truc avec Bing qui dit « Oh, cinq réponses et puis c'est fini !» Est-ce que c'est...
Vas-y Stéphane.
Moi je trouve ça un peu facile, mais après la seule question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que vous avez testé, est-ce que vous avez du coup après avoir testé vous avez eu envie d'utiliser Bing ou est-ce que vous êtes reparti sur Google ? Parce que moi perso j'ai plutôt eu envie de lui mettre des claques. autre chose.
Pourquoi il t'apprenait pas... la vie ou...
Non, mais j'ai pas eu de réponse du tout pertinente. Oui, alors quand tu creuses un petit peu, etc., c'est vrai qu'il a tendance à t'apprendre la vie. Et je trouve que là où ChatGPT est arrivé à le biaiser sur ta session en lui disant non, en fait, on est en 2022, etc., pour reprendre un peu ce est passé, mais c'était que sur ta session et en fait si quelqu'un d'autre lui posait la même question, il n'était pas biaisé. J'ai l'impression que Bing, les biais ils ont été un petit peu généralisés, donc peut-être moins de maîtrise de ce côté-là. Donc voilà, après je vais regarder l'évolution parce que forcément moi c'est un sujet, je suis passionné de tech et de sécurité, donc forcément c'est un sujet qui m'intéresse. Mais voilà, pour l'instant, aujourd'hui, j'ai pas été réellement autant j'ai été convaincu par ChatGPT, même si hier je lui ai demandé de résoudre un problème pour ma fille de CM1, juste pour voir comment il allait réagir. il commence à me faire des équations. Je lui dis, non, mais en CM1, ils ne connaissent pas les équations. Il me dit, ah, pardon, alors, si on part de x égale, j'ai dit, mais non, ça, c'est une équation. Ils ne savent pas ce que c'est x égale quelque chose. Il me fait, ah, ok, d'accord, pardon, excusez-moi de la confusion. Mais il m'a fait ça 10 fois, et au final, ouais, à chaque fois, il me remettait.
On a eu marre. Bon. Toi, t'es pas convaincu.
On voit les limites, mais sur Bing, je ne suis pas convaincu. Ouais.
Alors, sur Bing, j'ai cherché qui est Stéphane Le Boisselier et il me dit, alors, je ne vais pas dire spécifiquement, mais quelqu'un qui fait de la cybersécurité, un utilisateur d'Instagram avec le pseudo LB Stéphane. Il y a aussi un professeur d'histoire médiévale, j'imagine que ce n'est pas toi. Mais,
non, ça va.
Mais tu vois, comme quoi, il connaît
un petit peu. C'est pas mal, parce que ChatGPT ne me connaît pas, par contre. Tu vois.
Ouais, voilà. Tu vois, Bing, il peut faire des recherches Internet. Marion, c'est le tu sais, le mime du truc du téléachat où tu mets un machin de gros scotch, là, de gaffeur, sur la bassine qui fuit. Tu fais paf, et ça y est, c'est réparé. ça ressemble un petit peu à ça. C'est un peu la bassine qui fuit, peut-être.
Oui, mais bon, est-ce que c'est vraiment grave, enfin, en fait... Pour des produits, enfin, faut bien se dire, on est vraiment en early stage de produits. C'est vraiment le tout début de l'utilisation de l'intelligence artificielle et de ces modèles de conversation. Et en fait, c'est ce que disait très bien Microsoft. La majorité des utilisateurs vont pas l'utiliser comme ça. Donc, on va pas dédier 90% des ressources de Microsoft qui travaillent sur Bing avec ChatGPT sur 1% des use cases. C'est ridicule. Donc, en effet, ils ont mis un gros scotch. Ça va très bien tenir pendant un certain temps. Et ils vont se concentrer sur le vrai use case de Bing et de ChatGPT dans Bing. C'est ce que font toutes les startups. Hein. C'est-à-dire, on ne va pas aller chercher le edge case qui concerne 1% des utilisateurs. Et si, en fait, la solution, c'est l'expérience n'est pas optimale ou on limite leur nombre de requêtes, on s'en fout. Je suis désolée pour les fans de tech, mais on s'en fout. C'est ça, la réalité, en fait.
Ouais. Et je trouve que d'une manière générale, on a tendance à se focaliser sur ces cas pas négligeables, qui existent, ils ne sont pas inventés, mais sur ces cas-là, et pas assez sur l'utilisation en général, comme tu le dis. Et à ce propos, il y a un article que j'ai trouvé, peut-être que c'est le meilleur article sur l'IA que j'ai lu depuis 3 mois, et Dieu sait que j'en lis beaucoup, mais le plus important. Et je le mettrai aussi dans la newsletter. D'ailleurs, MailChimp est en train de changer ses conditions d'utilisation. Je ne sais pas si je pourrais continuer la newsletter publique, la newsletter des Patriotes, oui. Mais si vous avez des outils pas trop chers de newsletter qui fonctionnent bien, dites-moi, parce que dans quelques semaines, la newsletter, je vais devoir la transférer quelque part et je ne sais pas comment je vais faire. Mais d'ici là, cet article-là, il sera. C'est un article d'un professeur qui s'appelle Ethan Mollick, qui est un professeur d'université, hein, qui se focalise, qui est à l'université de Pennsylvanie, qui se focalise sur l'entrepreneuriat et l'innovation, et qui a pris une approche vraiment intéressante et différente sur l'IA. C'est que le dernier semestre, enfin ce semestre en cours, il a demandé aux élèves non pas de ne pas utiliser l'IA pour leurs devoirs, mais il a imposé aux élèves de faire une partie de leurs devoirs avec l'usage de l'IA. C'est-à-dire qu'il a été leur demandé de faire rédiger la réponse par ChatGPT et d'illustrer avec des outils d'IA générative image. Et le résultat est vraiment fascinant. Encore une fois, il faut aller lire l'article, il n'est pas super long, mais il donne par exemple la manière dont les gens l'utilisent avec petites variations et puis on laisse l'IA faire le travail, genre écrit 5 paragraphes sur ça, écrit 5 paragraphes avec comment les leaders organisent leurs équipes, etc. en 250 mots, ok. Méthode 2, avec des restrictions et des utilisations de l'usage, des connaissances de l'utilisateur, qui est un petit peu plus descriptif. Et puis l'approche 3, c'est carrément de la coédition, où il dit, on donne comme indication, fais comme ça, mets le paragraphe 2 ici, là, organise plutôt comme ça, etc. Et il dit, sa conclusion, je ne vais pas vous faire tout l'article, mais sa conclusion qui est vraiment intéressante, c'est que sans entraînement, tout le monde utilise l'IA mal. C'est-à-dire que ça ne donne pas les résultats qu'on veut, ça donne des résultats décevants dans le texte produit, etc. Mais il faut vraiment apprendre, et lui, il dit, il va falloir utiliser l'IA en donnant plusieurs prompts, en affinant votre recherche, en affinant vos requêtes, etc. ce que j'en retiens, c'est que, alors évidemment, lui, son but n'est pas de pousser les élèves à n'utiliser que ChatGPT pour écrire leurs devoirs, mais son but est vraiment, et c'est assez évident, de pousser les élèves à connaître l'outil, savoir comment l'utiliser et savoir comment bien l'utiliser, puisque sa conclusion, qui est une chose qui est inévitable, c'est que l'IA est partout déjà aujourd'hui. Alors imaginez ce que ça sera dans 2 ans. Et donc il dit, c'est bien gentil de mettre des interdictions et des choses comme ça. Et oui, il faut s'en préoccuper, mais l'IA est partout. Donc soit on apprend à l'utiliser, on aura un avantage, soit on n'apprend pas à l'utiliser. Et comme il le dit, sans entraînement, sans connaissance, tout le monde utilise l'IA n'importe comment. Donc dans ma classe, je fais les choses un petit peu mieux. J'ai trouvé cet article. C'est la première fois.
Cet article est fascinant, hein. Franchement, merci de l'avoir partagé, hein.
Ouais, tu l'as apprécié aussi.
Ah ouais, je le trouve vraiment super intéressant. L'approche du professeur, on sent que la personne est informée du sujet, tu vois, le AI policy, où il donne quelques règles de base sur, en effet, si vous mettez pas beaucoup d'efforts, vous allez avoir des résultats de qualité médiocre. Vous allez devoir affiner vos prompts pour avoir des meilleurs résultats. Ça va prendre du temps, ça va prendre du travail. Ne croyez pas tout ce qu'il vous dit. Il va falloir vérifier les faits qu'il vous avance dans les paragraphes qu'il écrit. Vous êtes à la fin responsable du résultat et de ce qui a été produit. L'intelligence artificielle est juste un outil et vous avez besoin d'être transparent sur le fait que vous l'avez utilisé. C'est comme quand vous utilisez des sources, quoi. Vous utilisez des sources, vous utilisez des techniques ou des outils. Il va falloir être transparent sur ce que vous avez utilisé pour vérifier la méthode. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, juste d'avoir un petit framework, un petit cadre sur comment utiliser et comprendre l'utilité de l'intelligence artificielle. Ça donne déjà le ton et des indications pour des élèves. Et en effet, ensuite, l'analyse qu'il a fait avec les 3 classes. Et il y avait une classe qui était obligée d'utiliser l'intelligence artificielle, une classe qui était encouragée à utiliser, et l'autre à laquelle on a mentionné l'intelligence artificielle, mais sans forcément les encourager. Et du coup, de voir un petit peu des différences de résultats. Et ensuite, sur comment les groupes de personnes l'ont utilisé différemment et la qualité des résultats qu'ils ont eus, comme tu l'as dit, avec de la coédition ou pas, etc. Je trouve ça vraiment très, très fascinant, très intéressant comme analyse, quoi. Bref, désolé, je me suis emballée, mais trouvé l'article très, très intéressant.
L'approche est super bonne, hein, effectivement. Ouais. De toute façon, je sais pas, vous l'avez tous manipulé, plus ou moins. Je trouve qu'on n'a pas les mêmes résultats au début de l'utilisation qu'après, parce qu'on apprend aussi comment il répond, comment il se comporte, petit à petit on affine les prompts, et effectivement il y a une vraie science là-dessus, à affiner les prompts, que ce soit pour ChatGPT, mais alors si vous faites du Midjourney, c'est encore pire. Là les prompts, il faut vraiment les affiner, sinon on n'a pas du tout le résultat qu'on souhaite, et donc il va y avoir une véritable expertise sur la gestion des prompts. Mais là ce que j'aime bien aimer dans l'approche du professeur aussi, c'est ce que tu disais, Marion, c'est qu'effectivement, il leur dit « Ok, vous avez généré ça via l'IA, mais attention, le contenu, vous en êtes responsable. » C'est-à-dire qu'il n'incite pas à ce que les gens se déchargent sur l'IA en disant « Mais c'est l'IA qui l'a dit, c'est pas moi quand je suis responsable. » Il n'y a pas cette espèce de transfert qui pourrait dire « Ben non, moi c'est l'IA, etc. » Donc ça, j'ai trouvé l'approche très très bien en disant « Ben voilà, attention, c'est vous qui l'avez généré et vous continuez d'être responsable du contenu qui a été généré. » Donc ça, j'ai trouvé ça…
Et autre point qui est intéressant, c'est la prise de conscience sur les biais de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ensuite, les élèves étaient censés partager un retour sur leur expérience avec l'outil. Et en fait, ils ont compris, par exemple sur les images, que dès qu'ils généraient un MBA student, c'était un homme blanc d'un certain âge. Et il n'y avait pas de femme. Donc c'est bien parce qu'en fait, ça va pointer et mettre le doigt sur les biais de notre société qui sont décuplés dans ce type d'outils, qui sont malheureusement entraînés sur des modèles de données qui sont biaisés. Et ça, il y a un livre très intéressant justement sur comment les données du monde sont biaisées sur les minorités et donc nous donnent une vue biaisée du monde. C'est ces modèles, les modèles de données sur lesquels on entraîne ces intelligences artificielles sont malheureusement souvent biaisés et vont contenir moins d'auteurs féminins, moins de diversité dans la représentation visuelle ou des personnes, etc. Et donc, du coup, on va avoir cette augmentation des biais. Ouais, ça ne fait pas que reproduire, ça amplifie. C'est ça le danger, en fait. C'est que ça ne fait pas juste reproduire, ça amplifie les biais déjà existants. Donc, c'est ça le vrai danger de ce genre d'outil, quoi. Donc, c'est bien parce qu'il y a une prise de conscience des élèves, en fait, là-dessus.
C'est ça. C'est-à-dire que la manière dont il fait son approche pousse à comprendre ses problèmes, alors que, évidemment, l'idée d'interdire, qui est partagée par certains, dans les classes, on parle... Alors là, on parle d'université, hein, bien sûr. Ce n'est peut-être pas exactement la même approche dans les lycées, encore que. Dans les lycées ou les collèges, encore que. Mais si on interdit ces usages, effectivement, on ne va pas les comprendre. Et là, c'est une approche qui est beaucoup plus proactive, qui va permettre de comprendre les outils. Et comme le fait remarquer Fanny dans la chatroom, Cédric Deluca nous disait il y a quelques semaines que lui aussi, dans son environnement académique, dit aux élèves qu'il faut l'utiliser, justement appréhender la chose. Là où ce papier est intéressant, c'est que c'est effectivement un compte-rendu de ce qui est important à comprendre dans ses usages, la manière dont ça se déroule, etc. Et puis, cette AI policy que tu as dotée, il y a un dernier paragraphe que je crois que tu as mentionné, je ne suis pas sûr, mais où il dit « il faut inclure un paragraphe à la fin de votre devoir qui explique comment et pourquoi vous avez utilisé l'IA. Sinon, vous êtes en violation des politiques, des règles d'honnêteté académique. » Donc, je trouve que cette approche est vraiment excellente. Il y a à peu près tout, je crois, ce qu'il faut y avoir là-dedans. C'est un papier qui n'est pas très long. Et je vous encourage vraiment à lire, que vous soyez un professionnel. Et en particulier, si vous êtes un éducateur ou quelqu'un qui est dans le monde politique ou qui a accès aux personnes dans le monde politique ou dans leur entourage, ou, etc., je pense que c'est important de s'intéresser de cette manière aussi, pas exclusivement, mais aussi à ces outils et considérer l'IA comme un outil et pas comme un ennemi, au moins dans certains contextes. Donc...
C'est comme un petit livre blanc de bonnes pratiques. Donc, ouais, c'est à diffuser largement, c'est clair.
Donc, il sera dans la newsletter. Il s'appelle My Class Required AI. Here's what I've learned so far. Et c'est sur un Substack. On parlait de newsletter. C'est sur un Substack. Et le monsieur s'appelle Ethan Molik. Voilà pour ce premier sujet des sujets restants, qui était quand même un gros sujet aussi. Je crois que Marion... doit aller travailler.
Oui,
ou aller manger,
je vais déjeuner rapidement pour reprendre le travail. Je vais vous laisser. Je vous remercie en tout cas. C'était des sujets passionnants, comme toujours. Et je souhaite une bonne continuation d'émission.
Merci beaucoup, Marion. Isaiah Design sur Twitter. Le lien sera dans les notes de l'émission. Bon appétit, bon boulot. Et on se retrouve dans quelques semaines, évidemment. Merci, Marion.
Oh.
Et... nous, on continue, Stéphane Vaillant.
Oui, on continue.
On continue. On a encore quelques sujets à traiter. En parlant d'IA, tiens. Je ne sais pas si je vais en parler ici. Je voulais parler du reportage en Ukraine de Hugo Travers, Hugo Décrypte, que j'ai trouvé hyper intéressant parce que c'est vaguement lié à cette histoire d'IA, parce que on dit souvent que avec les nouveaux médias et YouTube en particulier, ça influence, et c'est vrai, les grandes rédactions. Et le problème, c'est que les grandes rédactions ont une capacité à faire des grandes enquêtes, des grands reportages, etc. Et les YouTubers ou les blogueurs ou ce genre de choses n'ont pas cette même capacité parce que c'est des indépendants. Et il y a déjà eu des documentaires, des choses intéressantes qui ont été faites par des YouTubers. Mais là, ce reportage en Ukraine de Hugo Travers, qui est, pour ceux qui ne savent pas, un YouTuber qui est avant tout YouTuber et Twitcher, qui est avant tout qui traite de l'actualité politique et sociale en France. C'est un gros YouTuber. Il a fait donc un reportage qui est... Alors, il est resté en zone libérée, mais il est allé en Ukraine à Kiev et dans les villes voisines. Et il a fait en fait un reportage de guerre. Et au-delà de la substance du reportage lui-même, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est sa capacité financière et organisationnelle à justement faire un reportage de guerre qui n'a rien à envier, je trouve, à un reportage qu'aurait pu produire une rédaction d'une chaîne nationale. Il a 25 ans, il sort de YouTube, il sort de Twitch. Évidemment, on sent que c'est les premiers pas d'un journaliste, les deuxièmes ou troisièmes pas d'un journaliste. On en parlait beaucoup sur le Discord, justement. Et il y a quelqu'un qui nous disait « Ouais, c'est bien, mais en même temps, c'est un peu cringe. » Et oui, évidemment, il y a des moments où il est très jeune, etc. Mais ce qui me frappe vraiment, au-delà de cette partie de la discussion, ce qui me frappe vraiment, c'est de voir de quelle manière un indépendant, un YouTuber, qui n'est même pas le plus gros YouTuber de France, et certainement pas le plus gros YouTuber du monde, mais même pas le plus gros YouTuber de France, peut réussir à faire un reportage de ce type. Alors, c'est pas, ça ne veut pas dire que tous les YouTubers peuvent concurrencer toutes les rédactions, mais quand on dit le problème de ces indés, c'est qu'ils n'ont pas les ressources pour faire des grandes enquêtes, des gros reportages, c'est vrai, et ça l'était, c'était très vrai jusqu'à maintenant, mais je me demande si on n'est pas en train de voir cette tendance peut-être s'infléchir un petit peu. Et si des YouTubers qui, comme ça, gagnent beaucoup d'argent, peuvent investir cet argent dans leur pratique. Alors, il avait une équipe, il avait un fixeur, il avait des producteurs, etc., évidemment. Mais je trouve que c'est un signe intéressant. Et pourquoi c'est lié à l'IA ? Parce que la première réaction, c'est ça détruit l'existant, en quelque sorte. Et c'est vrai, c'est totalement vrai. Les nouveaux médias ont beaucoup fait de mal à la presse traditionnelle, c'est sans aucun doute. Mais ça se reconstruit aussi derrière, d'une manière différente, peut-être. Et en tout cas, ça, c'est une piste qui va dans ce sens, je trouve. Je voulais mentionner. Encore plus intéressant, savais-tu, Stéphane, que la DARPA a fait voler des avions de chasse contrôlés par IA ? Tout va bien. Aucune inquiétude à avoir dans cette news.
Non, non. Aucune,
les IA aucune... contrôlent des F-16 en vol.
Net, si tu nous écoutes. Non.
C'est ça. Alors, c'est un test. Et l'idée, selon la DARPA, évidemment, c'est pas que l'IA remplace complètement les pilotes, mais qu'ils deviennent une assistance aux pilotes. T'as pas intérêt à le laisser voler plus longtemps, très longtemps, parce que comme avec Bing, au bout de 5 virages, tu vois, il commence à s'énerver, l'IA. Donc bon, faut faire un petit peu attention. J'ai trouvé ça.
C'est ça. Bon, après, c'est des gros drones, quoi. Je veux dire, il y avait déjà des drones qui étaient.
Alors qui oui étaient, et non, parce qu'un drone.
Quasiment autopiloté, hein.
Alors un drone, oui, mais un drone, c'est piloté par une personne, normalement, une personne à distance. Là, c'est l'IA qui a volé de manière indépendante.
Ouais, il y a certains drones automatiques en fait, où, mais en fait, on lui met
dit,
un plan de vol.
Tu vas là, tu reviens là.
Et voilà, il ne fait que respecter le plan de vol. Il n'y a effectivement pas d'interaction. Je pense que là, ça va un petit peu plus loin. Ouais. Surtout que sur un F-16, il faut avoir un peu plus de réflexes en termes de gestion du manche que sur un drone, je pense.
Oui, voilà. Bon, j'imagine qu'il a juste décollé, enfin peut-être même pas décollé, tu vois, juste volé tout droit. Je ne sais pas, ils n'ont pas donné tous les détails de leur...
Non, ils n'ont pas donné les détails.
On nous demande dans la chatroom, désarmé, je suppose, j'imagine, oui, je pense que pour les tests d'IA, mais qu'est-ce qui se passe demain, dans 5 ans, dans 10 ans ? Et peut-être qu'une IA prendra de meilleures décisions qu'un humain, ou peut-être pas. Bon, écoutez... on aura la réponse dans quelques temps. On a aussi...
Bah, je te dirais qu'il leur manquera toujours l'instinct, tu vois. Voilà.
Ah, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura un instinct encore meilleur chez des IA. Il y a, toujours dans le domaine de l'IA, il y a un projet de recherche qui vise à faire établir, à créer des niveaux du jeu Super Mario Bros. Par une IA. Ce n'est pas juste un truc aléatoire avec des paramètres. C'est une IA qui... créer des niveaux en fonction de prompts, comme on le fait avec des images ou des textes avec ChatGPT. Par exemple, beaucoup de tuyaux, beaucoup d'ennemis, peu de blocs, peu de hauteur, et ça sort un niveau qui correspond à ça. Alors, on en parlera sans doute dans le rendez-vous jeu jeudi, cette semaine, mais c'est à la fois, bah, comme pour toutes ces évolutions, à la fois inquiétant pour l'industrie et peut-être une opportunité pour la création. Mais bon, comme quoi, tu vois, ça
moi, j'ai envie l'avion de chasse au niveau Mario. J'ai quand même envie de dire enfin une utilisation utile de l'intelligence artificielle.
Enfin, tu ça sert à quelque chose, les IA.
Enfin, punaise, il était temps qu'on ait des exemples concrets, quoi.
C'est ça. Ils emmerdent avec leurs devoirs en classe, là, avec des images.
Oh, c'est bon quoi. Ça va. Pour faire un exposé, Mario, au moins, c'est utile. Voilà.
Exactement. Et puisqu'on parle de jeux vidéo, la semaine dernière, on a fait une longue discussion sur le PlayStation VR 2. Dans le rendez-vous jeu, donc je vous encourage à aller écouter cet épisode si ça vous intéresse. Pardon ?
Avec Kassim.
Exactement, avec notre ami Kassim Ketfi, qui était donc une longue conversation, on a passé plus d'une demi-heure. Allez écouter l'épisode si ce sujet vous intéresse, mais en gros, la conclusion, c'était excellent matériel, perspective d'utilisation avec les logiciels déjà sortis et à l'avenir, un petit peu plus préoccupante et puis c'est un petit peu cher. Donc, mais bon, on a les
et
détails.
Dommage qu'il n'y ait pas de l'anti-pancake. Hein. Là, je rejoins.
Tu es déçu. Là-dessus. Je comprends.
Mais ouais, oui, Oui. Bon, après, je suis Team Xbox, donc j'ai pas de PS5. J'aurai pas de PSVR2. Par contre, du coup, j'attends le Meta 3. Par contre, tu vois.
Ça devrait pas tarder à être annoncé, d'ailleurs.
Ouais. Bah, là, je lorgnais sur le Pico 4, qui lui a des lentilles pancake et qui a un contenu de plus en plus intéressant aussi. Mais bon, j'attends un petit peu pour voir ce qui va sortir.
Le Meta Quest 3. Allez, on change un petit peu de sujet. Une initiative d'un député français sur... Alors, on a beaucoup de lois ou de propositions de lois qui touchent à l'âge et à l'utilisation de certains réseaux, et en particulier, évidemment, quand on parle d'âge, on parle de jeunesse. Et en l'occurrence, on parle, c'est un article de Chloé Wattier, l'excellente Chloé Wattier sur le Figaro, qui nous rapporte un projet de loi de Laurent Marcangeli, qui voudrait discuter d'une instauration, d'une autorisation pour la création de comptes sur les réseaux sociaux, comme Instagram ou TikTok. Donc son texte parle d'un âge de 15 ans pour demander l'autorisation aux parents pour créer un compte. Il ne s'agit pas d'interdire l'utilisation, on n'est pas dans le cadre de contenus pornographiques ou ce genre de choses qui ont aussi été discutées et qui sont, à vrai dire, mis en place, mais d'une demande d'autorisation pour que l'ado n'ait pas la possibilité, alors on sait bien ce que ça veut dire, hein, n'ait pas la possibilité, il y a toujours des moyens de détourner, mais ça soit a priori plus difficile ou en pratique interdit de créer un compte seul, sans l'autorisation des parents, avant l'âge de 15 ans. Alors, on peut discuter de tout, hein, l'âge de 15 ans, est-ce que c'est le bon âge, est-ce que c'est une bonne idée, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément une mauvaise idée. Alors, peut-être que 15 ans, c'est un peu trop âgé, mais avant 12 ans, par exemple, ou 13 ans, peut-être, moi, j'aurais tendance à me dire, oui, trouver un moyen pour nécessiter l'autorisation du parent dans la création du compte, je pense que c'est peut-être une bonne idée. Toi, tu as des ados, donc tu es concerné par la chose. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, pour la création du compte, oui, parce que là, aujourd'hui, ils créent des comptes. Et en fait, ce qu'ils ne veulent pas que je vois, ils créent un deuxième compte dont je ne suis pas au courant.
Sans avoir une autorisation pour créer un compte spécifique, tu vois, s'ils doivent... Alors, après, problème, c'est le moyen technique, là. Hein, mais,
Oui. Alors, il y aura toujours des moyens de contourner pour les petits malins, mais dans l'idée, je ne suis pas contre, parce que faut quand même rappeler que les réseaux sociaux, c'est pas tout beau, tout rose, qu'à partir d'un certain âge, avant un certain âge, c'est compliqué. Toi, Facebook, par exemple, ils disent que c'est 13 ans. Pour moi, 13 ans, c'est un peu jeune pour avoir un compte sur Facebook ou sur Insta. 15 ans, ça me paraît déjà mieux et avec un certain contrôle des parents. Alors, les miens, ils jouent le jeu, normalement, voilà. Mais je sais qu'à une époque, il y avait un soi-disant oubli de mot de passe, du coup, deuxième compte, mais bon, c'est papa, ils savent qu'ils peuvent pas trop jouer, donc bien sûr, le compte, je l'ai trouvé. Mais tout le monde n'a pas forcément l'expertise que je peux avoir de par mon métier, etc. Donc voilà, et puis après, il y a une question de confiance avec ses enfants aussi. Mais je trouve ça pas idiot, après, voir comment les moyens techniques sont mis en place. Il va falloir que les plateformes jouent le jeu aussi, quoi.
Ça, c'est le problème, comme toujours dans ce genre de cas. C'est le problème avec l'accès aux sites pornographiques également. Il y a des solutions qui sont en train d'être devisées. On verra à quel point ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais c'est toujours le problème. Oui, établir la loi pour restreindre ce genre de choses, pourquoi pas. Après, comment c'est mis en place techniquement? Il fut une époque où, peut-être parce que j'étais moi-même plus jeune, je me disais, oh, mais c'est n'importe quoi, on peut de toute façon passer outre, machin. Mais je crois que la fonction de la chose est évidemment de contrôler, mais également de poser l'interdit, même si certains vont passer outre, tu vois. Tu mets la ligne, et on sait bien, c'est comme pour le piratage avec la Dopi, qui est qui n'était pas forcément la meilleure manière d'approcher la chose, mais c'est pour dire, il y a des trucs qui sont autorisés et des trucs qui sont interdits. Oui, on sait que les jeunes, les ados, machin, vont réussir à trouver des moyens, mais au moins, tu sais que l'interdit est là, et si tu passes outre, bah, tu sais que tu es passé outre. Donc, je trouve que toutes ces conditions... Ah, si c'est, quand même, si c'est relativement cohérent quand même, hein, faut pas que ça soit non plus une totale passoire, mais l'idée peut être valide, même si c'est pas implémenté de manière infaillible, quoi, je pense. Bon. Tiens, à propos de puissance de la loi, il y a le Digital Services Act qui commence à rentrer en action et qui impose aux plateformes de révéler le nombre d'utilisateurs qu'elles ont en Europe, spécifiquement. Le Digital Services Act est un texte de loi européen qui régule la manière dont fonctionnent les services numériques de manière assez stricte. Et on a notamment appris que YouTube a 401 millions d'utilisateurs en Europe. Ça fait beaucoup, hein. L'Europe, c'est combien ? 450 millions ? 300 millions ? 400 millions de personnes ? Facebook a 255 millions. Instagram, 250 millions. TikTok, 125 millions. Et Twitter, 101 millions. Alors, au-delà du chiffre, entre parenthèses, on a appris entre-temps que Snapchat avait 750 millions d'utilisateurs dans le monde. Dans le monde, 750 millions d'utilisateurs actifs mensuels, on parle d'utilisateurs actifs mensuels, augmentation de 25% en moins d'un an. C'est incroyable, Snapchat qui était au bord de la mort, moi je croyais qu'ils étaient à 150 millions, un truc comme ça, c'est le double de Twitter. Hein. Donc ils étaient au bord de la mort il y a quelques années, ils ont continué leur petit bonhomme de chemin, bref.
Ouais, mais c'est ça. 447 millions hein, en Europe, pour info. Tu vois, donc YouTube, 400 millions, c'est 401 ouais. millions, c'est pas mal.
Oui, c'est clair. Ce que ça m'évoque, moi, cette idée, c'est que c'est un changement, là encore, j'essaye toujours d'être ouvert au changement d'idées, au changement d'opinion, même si parfois je suis ferme sur certaines, il y a des choses où il faut aussi pouvoir évoluer. Et en l'occurrence, je pense que ça pointe du doigt le rôle des gouvernements et plutôt même la force des gouvernements face aux GAFAM et aux géants de la tech. Parce que pendant de nombreuses années, la tendance était plutôt de se dire « Oh là là, les géants de la tech, les GAFAM, les Facebook, les Amazon, ils sont tellement énormes qu'on ne peut pas contrôler ce qu'ils font. Ils sont aussi puissants que des États. » Et c'était, il y avait une sorte de, pas de défaitisme, mais enfin de fait accompli qu'on ne pouvait pas vraiment influencer. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les différents textes, alors le premier, c'était le RGPD, évidemment, mais ça a continué depuis. Eh bien non, ce n'est pas qu'on n'a pas le choix et qu'on ne peut pas contrôler. C'est qu'on fait des lois, on se met tous, et en particulier au niveau de l'Europe, parce que quand un pays européen fait une loi, ça a beaucoup moins d'impact que quand l'Europe entière se met d'accord pour faire un truc. Donc la puissance de l'Union européenne, là, est assez claire, mais quand on fait des lois, eh ben, les sociétés qui sont juste des sociétés, elles s'y plient et elles sont bien obligées de s'y plier. Et oui, elles vont essayer de faire du lobbying et du machin, c'est le jeu, c'est normal. Mais là, en l'occurrence, elles respectent les lois en essayant, comme les ados qui passent outre les autorisations aux parents, de contourner peut-être. Mais d'une manière générale, bah, quand la loi dit quelque chose, des sociétés doivent faire en sorte de la respecter, en particulier quand tu mets des responsabilités pénales ou financières sur les dirigeants. Ça marche très 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 bien. Mais bon, le DSA et le DMA en sont de très bons exemples, je trouve. Donc voilà, c'était une chose que je voulais noter. Et puis, conclusion, Salto. Salto disparaît dans un mois environ. J'ai beaucoup aimé l'article de Marie Turcan sur Numérama qui titre « La mort de Salto est un immense gâchis ». Je trouve ça assez juste. Là encore, on s'est beaucoup moqué de Salto. Salto, c'est la plateforme de streaming française, franco-française. Hein. Vous vous en souvenez, elle a été lancée quoi, en 2019-2020. Elle avait réussi visiblement à atteindre 600 000 abonnés payants. 2022, c'est pas rien quand même 600 000. Ah oui, c'est pas les 10 millions de Netflix, mais c'est pas rien. Et surtout, elle a atteint ce chiffre avec des moqueries incessantes, possiblement de ma part aussi. Je ne me souviens plus si moi j'étais sur le ton « on ne sait pas, faudrait tester ». Moi, je crois que c'est l'angle que je prenais sur ça, parce qu'il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de moqueries. Et puis surtout, il y a eu beaucoup de problèmes légaux et administratifs qui sont bien intentionnés au niveau de la France, peut-être, mais qui ont peut-être aussi mis, je vous réfère à l'article de Marie, qui ont peut-être mis aussi des bâtons dans les roues d'une plateforme qui aurait pu, à terme, peut-être un petit peu compter en France. Et pourquoi pas s'étendre au niveau européen, peut-être en faire un truc européen. On aurait eu accès à plein de chaînes européennes pour notre abonnement. Ça permet aux chaînes en question d'atteindre plus de clients potentiels sans forcément bouffer leur marché local. Je trouve que c'est un petit peu dommage, cette histoire de Salto, malgré tout. Ils n'ont eu que des problèmes, et en particulier avec l'interdiction de la fusion entre M6 et TF1. Bon, ça a forcément fait capoter le truc, mais je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est dommage, cette histoire de Salto. Je ne fais pas partie des gens qui s'en moquent ou s'en réjouissent.
Bah, moi, au début, je disais « haha », mais bon, comme je suis... Comme je me suis dit, bon, c'est français, etc. Au début, je m'étais abonné. Je suis resté abonné un mois, deux mois. Et après, honnêtement, je me suis aperçu que j'y allais pas, que ça manquait de contenu. Alors peut-être parce que c'était le début et je n'ai pas redonné sa chance après. Et c'est vrai que je suis resté sur des plateformes un peu plus mainstream. D'autant
je pense que t'es avec pas la cible. Hein.
Avec ma fille et mes ados, ben Disney+, il y a Marvel et tout, donc c'était quand même vachement mieux. Voilà, Netflix aussi, donc on est abonné déjà à ces deux-là, ça en faisait un troisième. Le replay, je l'ai sur Molotov, tu vois, donc du coup, j'avais pas d'intérêt. Mais je suis assez d'accord que c'est du gâchis. Hein. Il y avait une cible. On dit dans la chatroom 600 000, c'est rien. C'est Zigo Toto qui nous dit ça. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal. Moi, tu vois, j'étais étonné qu'il y ait 600 000 abonnés. Voilà, donc effectivement, c'est une plateforme qui a peut-être pas eu sa chance et qui a peut-être pas été bien gérée non plus. Hein. Peut-être que s'il y avait eu quelques contenus un peu plus attirants, ça aurait ramené du monde, je sais pas.
Peut-être,
ouais. En tout cas, maintenant, elle disparaît. C'est dommage.
Et je crois que ça nous amène du coup à la fin de notre émission, de nos discussions. Je vais peut-être vous faire un after-show pour les Patriotes, un after-show sur la Section 230, qui est hyper importante. Il y a un procès majeur qui se joue sur ce morceau de loi américaine qui régule la manière dont les services Internet, les sites Internet peuvent modérer les contenus. Et alors, on est là aujourd'hui, donc on en parlera la semaine prochaine, je pense, du procès Gonzalez versus Google, qui est essentiel devant la Cour suprême américaine. Donc, on en parlera la semaine prochaine, mais je vais vous faire un petit after show pour expliquer ce qu'est le Section 230, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Donc, on va faire ça pour les Patriotes. Mais entre-temps, je vais d'une part dire au revoir à Stéphane aussi, puisque nous nous quittons là pour l'épisode normal sur le flux public, sur les gens normaux. Donc, quand même, l'occasion de te dire au revoir et merci. Et où es-tu sur Internet ?
Eh ben, merci à toi. C'était toujours, c'est comme toujours un plaisir de faire cette émission, de t'accompagner. Sur Internet, vous me retrouvez chez Elon Musk, @LB Stéphane. Voilà, et sur YouTube Révolution 3D et sur Twitch aussi, mais je vais essayer de refaire du contenu, mais c'est vrai que ces derniers mois j'ai été très très pris, et puis j'ai eu des petits soucis de santé, donc j'étais moins actif, mais voilà, je vais essayer de reprendre un petit peu tout ça.
Très bien, donc dans tous les cas tu es sur Twitter LB Stéphane, juste là.
Exactement.
Pour ma part, c'est NotePatrick sur notepatrick.com, absolument partout, enfin presque partout, NotePatrick. Je suis pas sur TikTok, je suis Patrick, NotePatrick01, Patrick Béja01, NotePatrick01 peut-être, je ne sais plus. Enfin, je ne poste pas sur TikTok de toute façon, mais peut-être un jour, qui sait. Je vais vérifier parce qu'après les gens vont, je l'ai dit maintenant, TikTok, je suis qui sur C'est pas TikTok. TikTok, voilà. Je vérifie hein, en direct. Vous m'excusez une seconde, je reviens tout de suite. Ne pas autoriser à trouver les contacts. Non, merci. Note Patrick. Ah bah vous auriez pu chercher longtemps. Note Patrick. Pourquoi j'ai 89 followers? Bon, bref, note Patrick sur TikTok. Vous pouvez aller me suivre si ça vous intéresse, mais je n'y poste pas. Donc, un jour, je me réveille pour faire un TikTok, vous saurez. Mais à part ça, Twitter, Facebook, Instagram, tout ça, c'est NotePatrick partout. Vous avez aussi notepatrick.com pour suivre tout ce que je fais, tous les liens vers tous mes podcasts, dont Super Laser Punch. On devrait parler de Ant-Man and the Wasp cette semaine. Et puis en fin de semaine, des épisodes 4, 5, 6 de The Last of Us. Antoine M. The Wasp, je ne vais pas spoiler, mais... Ouais, Quantumania, on a vu mieux. Mais dans tous les cas...
Ah, rien voilà. Que la bande-annonce au cinéma ne m'a pas vraiment donné envie. Hein. Pourtant, j'avais bien aimé surtout le 1, mais bon, bref.
Écoute, j'ai écouté, mais ça ne m'a pas donné tellement envie non plus. Donc, par contre, The Last of Us, c'est très bien. Mais voilà, donc tout, vous pouvez me suivre absolument partout. Twitch, NotePatrick pour suivre en direct. Il y a NotePatrick Podcast, aussi le lien dans les notes de l'émission, sur YouTube pour voir en replay. Et bien sûr, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Si vous le souhaitez, si vous voulez faire cette action active, eh bien vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et obtenir plein de bonus cool, comme par exemple cet after show qu'on va faire tout de suite. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous fais de grosses, grosses bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.